BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On va parler du sujet d'actualité, mais on va parler du Brexit. Avec, est-ce qu'on a une chance de s'en sortir ou pas, avec notamment ce sommet européen. On en parlera avec Christian Noyer, il est un peu le monsieur Brexit pour la France. Il est gouverneur honoraire de la Banque de France. Je recevrai aussi l'armateur Philippe Louis Dreyfus. Il est président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus. Il est aussi le président de la Task Force Économie Maritime au sein du MEDEF International. Et puis en plateau avec nous, Renault, qu'est-ce qui va se passer chez Renault? Quel est le directeur général? C'est l'ancien directeur général de Renault qui est avec nous, Patrick Pellata, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Plein de questions à vous poser un peu. J'imagine que vous avez encore vos antennes au sein du groupe. Quelle est l'ambiance? Et puis surtout, quel profil idéal pour vous succéder en quelque sorte? Parce qu'on sait qu'il y a eu Carlos Tavares, Thierry Bolloré aussi. Donc il y a eu quelques successeurs. On verra le profil idoine. Mais pour l'instant, place à l'actu. L'actualité est très chargée avec vous. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et on démarre avec ce prix Nobel d'économie 2019 qui vient de tomber et il est attribué à la France, à la française Esther Duflo. Alors pour être plus précis, ce prix Nobel est attribué à un trio, à Esther Duflo, à son conjoint également économiste bien sûr, Abhijit Banerjee, et à l'américain Michael Kremer. Emmanuel Lechypre sera avec nous d'un instant à l'autre pour nous en dire plus sur ces trois économistes et leurs travaux récompensés donc d'un Nobel d'économie cette année. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Ursula von der Leyen et Donald Tusk à l'Elysée. Au menu des discussions bien sûr, la composition de la future Commission européenne après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard. Bruno Le Maire déclare d'ailleurs qu'il n'est pas candidat à la Commission européenne. Le temps presse en tout cas, puisque la nouvelle Commission est censée prendre ses fonctions le 1er novembre. Et puis l'autre gros sujet de discussion aujourd'hui à l'Elysée, c'est bien sûr le Brexit, à 3 jours d'un Conseil européen qui peut s'avérer décisif dans ce dossier. Les discussions se poursuivent aujourd'hui entre les Européens et les Britanniques, mais accord ou pas accord le 31 octobre, Londres semble bel et bien se projeter dans l'après-Brexit, puisque le ministre des Finances britannique déclare ce matin qu'il présentera le 6 novembre le premier budget britannique après la sortie de l'Union européenne. BFM Business midi 2. On revient donc sur ce prix Nobel 2019. Emmanuel Lechypre nous a rejoint en plateau. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors dites-nous tout sur les trois lauréats.
Alors, les deux plus connus, c'est effectivement le couple, hein, puisqu'il faut bien appeler ça un couple. C'est un vrai couple dans la vie. Je pense que depuis Pierre et Marie Curie, on n'avait pas vu de vrai couple recevoir le prix Nobel. Donc c'est Abhijit Banerjee et Esther Duflo qui sont des spécialistes de la lutte contre la pauvreté. Mais leur spécificité, c'est vraiment qu'ils ont essayé d'avoir une approche microéconomique, hein, qu'ils font des expériences sur le terrain. Esther Duflo, c'est elle, par exemple, qui a fait des expérimentations en Inde pour savoir si, quand on donnait des costumes pour aller à l'école, par exemple, aux petites filles, ça avait un impact ou pas sur leur trajectoire scolaire, etc. Donc, c'est toute cette branche de l'économie concrète, dont l'objectif est la lutte contre la pauvreté, qui est récompensée aujourd'hui.
Empirique, hein, en tous les cas, c'est une recherche empirique. Elle est très proche de Barack Obama,
absolument,
c'est ça.
Absolument, aussi.
Qui l'a rendue quand même célèbre, on en veut dire.
Alors, évidemment, elle est française, Esther Duflo, mais la réalité, c'est qu'elle a fait effectivement toute sa carrière aux États-Unis, qu'elle est au MIT, que c'est là qu'elle est vraiment rentrée sous le feu des projecteurs. Elle a été élue plusieurs fois, une des femmes les plus influentes du monde, etc. Et elle était très proche de Barack Obama. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est quand même la scène américaine qui fournit deux prix Nobel, même si Banerjee est d'origine indienne et Esther Duflo d'origine française.
Elle est française, hein, quand même. Elle a reçu le prix du meilleur jeune économiste, hein, de nos amis du Cercle des économistes. Hein.
Absolument.
Vous vous souvenez?
Absolument.
Elle était venue ici même en studio en parler.
Puis l'invitation est lancée maintenant, il faut qu'elle vienne nous voir avec son Nobel.
Absolument, ça sera Davos. Allez. On poursuit rapidement
et puis on va terminer avec cette information budgétaire, bien sûr, assez incontournable, hein, dans l'actu du jour en France, le top départ du marathon budgétaire à l'Assemblée avec le volet recettes, hein, du budget 2020 qui est discuté par les députés à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 octobre. Et l'État va serrer la ceinture puisque c'est clairement un budget de baisse d'impôts, hein, plus de 9 milliards pour les ménages, dont 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu et la suppression de la dernière tranche de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français. BFM Business, il est midi 4. Je vous donne le CAC 40 à la mi-journée, le CAC qui plonge, qui recule sur fond à nouveau d'incertitudes dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. En abandonne 1% à 5607 points. L'euro-dollar est stable. 1 euro s'échange pour 1,1038 $.
Merci Thomas, bien sûr. Thomas Asportas, qu'on retrouve à 12h30 dans un instant. Qui pour succéder à la Thierry Bolloré, à la tête, à la direction générale de Renault? On voit ça avec Patrick Pellata, l'ancien directeur général de Renault.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Patrick Pellata, merci d'être avec nous, parce que j'imagine pour vous, c'est pas évident, vous suivez ça quand même avec beaucoup d'intérêt, ce qui se passe chez Renault.
Oui.
C'est un peu une crise comme celle que vous avez connue pour d'autres raisons, hein, en l'occurrence. Est-ce que vous attendiez, on va être cash, à l'éviction de Thierry Bolloré?
Oui, je peux même dire que je l'espérais. Et j'étais probablement pas le seul. L'atmosphère était devenue difficile au sein de l'entreprise, avec les gens qui se sentaient menacés, beaucoup de départs.
Menacés, c'est des mots forts, hein.
Oui. Bah, écoutez, le dernier exemple, c'était une personne qui s'appelle Arnaud Deboeuf, un polytechnicien qui a géré pendant 4 à 5 ans les relations avec Nissan, qui était très bien vu par les opérationnels des deux côtés, qui avait été avant directeur de programme de Duster, qui est un peu une vache à lait de Renault, et qui se fait virer sur la base d'un mensonge explicité dans un mail de d'Ardonne Boeuf quand il est parti. Il est d'ailleurs parti directement chez PSA ensuite.
PSA, on y reviendra bien sûr.
Dans lequel Thierry Bolloré lui avait dit « Mais personne ne veut travailler avec vous, donc t'es viré ». Voilà, c'était un mensonge. Et ce genre de choses, ça a frappé tout le monde dans l'entreprise. Parce que si quelqu'un qui a une carrière brillante, qui a tout réussi et qui peut se faire virer sur la base d'un mensonge, alors tout le monde peut se faire virer. Et ça crée une ambiance absolument abominable dans l'entreprise. Ça s'ajoute.
Donc il y a une ambiance détestable au sein de Renault.
Oui, je pense que ça peut changer vite, parce que c'était très lié au mode de management de Thierry Bolloré, et donc je pense que ça va changer vite en fait pour le mieux.
Comme vous le disiez, il y a eu beaucoup de départs, notamment pour PSA, en l'occurrence. Est-ce que cette fuite de cerveau, c'est préjudiciable à Renault ou pas? Est-ce qu'on on a atteint, parce que là on dit c'est le BCG, le Boston Consulting Group, qui en fait est en train de gérer Renault. Est-ce que c'est à ce point-là? Est-ce qu'effectivement il y a eu vraiment des fuites de compétences?
Ah oui, c'est clair. Il y a des gens en interne ont fait le décompte. En un an, c'est plus de 30 personnes qui sont parties de haut niveau. Or, quelqu'un qui est au niveau juste en dessous du comité exécutif ou au comité exécutif, on a mis 20-25 ans pour le former. D'ailleurs, c'est pour ça que Carlos Tavares, qui les connaît bien, les prend dès qu'ils sortent de Renault. Donc oui, c'est grave. Il en reste, Dieu merci. Tout le monde n'est pas parti, mais c'est un problème. Et je pense que Jean-Dominique Senard a été très sensible à cet aspect des choses quand il a décidé de passer à l'acte vis-à-vis de Thierry Bolloré.
C'était très rapide, hein, parce que Jean-Dominique Senard rentrait du Japon, où il y a eu donc la succession d'Hirato Taikawa qui a été gérée avec ce triumvirat à la tête. À peine arrive-t-il à Paris, le vendredi matin, conseil extraordinaire pour virer Thierry Bolloré.
Oui, ben je pense qu'il a...
Il y a une prise de conscience, tout d'un coup, vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je pense que cette prise de conscience, elle a probablement pris du temps. Vous savez, au début, il lui a fait confiance, et puis, petit à petit, il y avait des choses qui ne collaient pas avec la confiance qu'il avait faite. Et je pense que le départ d'Arnaud Deboeuf, un certain nombre de choses qui ne sont pas bien passées, la Clio qui est lancée très en retard, ce qui n'était pas arrivé depuis des années et des années chez Renault, le fait que les fournisseurs se plaignent de ne pas être payés, que certains ont même reçu des lettres en leur demandant d'être payés seulement en janvier, alors qu'on lui disait...
Question de cash, parce qu'on a bien vu que les investisseurs s'inquiétaient du niveau de cash de chez Renault.
Pendant ce temps-là, Thierry Bolloré dit non, il n'y a aucun problème de free cash flow, on va rattraper le retard qui était déjà très significatif pris fin juin. Donc tout ça, quand ces choses-là s'accumulent, au bout d'un moment, on se pose des questions, et j'imagine qu'il est allé voir des gens pour essayer d'en savoir un petit peu plus, et finalement, il a pris sa décision. Je pense que pour ne pas perturber les choses chez Nissan, il a fait ça après, ça paraît logique. Pourquoi ça s'est passé si vite? Je pense qu'il y a eu la fuite dans le Figaro de cette affaire-là, et qu'ensuite dans ces cas-là, il faut aller vite, quoi. Faut pas,
oui, pas cela dit, on pose toujours la question à quoi sert le conseil d'administration de Renault, qui avait adoubé et réadoubé Thierry Bolloré. Là, on les vince avec trois abstentions en l'occurrence, sinon tout le monde a voté pour. On peut se poser quand même la question sur la composition du conseil d'administration de chez Renault. Le profil maintenant, à votre avis, Patrick Pelletin, parce que c'est entre vous, Carlos Tavares, Thierry Bolloré, je veux dire, il y a des profils quand même extrêmement différents. Et même Carlos Ghosn, qui a été directeur général, oui.
Oui, alors, Carlos Ghosn, faut rappeler que avant d'être directeur général, il est resté 3 ans en charge de tout l'amont de Renault, et en plus dans une direction générale qui était complètement stabilisée, avec un excellent PDG, Louis Schweitzer, qui l'a pris en main, qui a tout fait pour le former, qui l'a ensuite envoyé chez Nissan, où il n'était pas CEO tout au début, mais ensuite il a c'est pareil, ça a pris 2 ans avant qu'il devienne CEO, donc c'est un parcours de 5 ans, si vous voulez, pour quelqu'un qui...
Il y a un vrai parcours initiatique, en tout cas.
Exactement. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, dans l'automobile, tous les grands patrons, que ce soit Volkswagen, BMW, Mercedes, Daimler, General Motors, Volvo, tous ces gens-là viennent de Fiat, même Fiat Chrysler aujourd'hui, tous ces gens-là viennent de l'industrie automobile, ils connaissent. PSA, évidemment, tout le monde connaît la carrière de Carlos Tavares chez Renault avant d'aller chez PSA. Donc je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse très bien l'industrie automobile et dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire y compris le
commerce. Il y en a beaucoup. Alors on dit qu'il y a 2 chasseurs de tête qui ont été, je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer, qui ont été Gunzender et
les journaux comme oui, vous. Oui. Non, je pense que oui, en interne, il y a du monde. Il y a du monde. Simplement, il faut le temps de les amener au niveau d'un comité exécutif et de finir de les maturer pour ce poste. Il y a aussi des gens qui sont partis chez Nissan, de Renault, et qui sont excellents. Il y en a, j'en connais au moins 2, qui pourraient tout à fait prendre ce job en venant chez Renault. Donc oui, il y a du monde en interne. En externe, c'est plus difficile à trouver parce que ça va se trouver chez un autre constructeur automobile, et j'imagine que c'est
pas facile. Vous nous dites, il existe des candidats, notamment 2 candidats en interne.
À mes yeux, il y en a 4 ou 5 ouais. qui pourraient prendre le job, certains avec un petit temps de
la directrice financière qui est actuellement sur l'intérim, à votre avis?
Ben, elle est assez jeune chez Renault, et avant elle était chez Pechiney.
Donc là où elle a côtoyé notamment.
Automobile. En plus, je dirais qu'un directeur financier à un moment pour devenir CEO, à un moment où il y a énormément de challenges technologiques, le véhicule autonome, les nouvelles mobilités, les véhicules connectés, il y a énormément le passage en masse au véhicule électrique, il y a énormément de challenges technologiques. Il faut avoir de la vision, il faut bien comprendre comment faire travailler une grosse ingénierie. C'est pas évident. Je pense que ce ne serait pas facile pour elle.
On a le sentiment, là, un peu d'ouvrir la boîte de Pandore, de la pré-Ghosn, ou de ce qui s'est passé. Vous avez été... votre épisode qui vous a valu votre éviction, hein, autour des questions de fuite industrielle, en l'occurrence. Qu'est-ce qui vous a... on a l'impression qu'on soulève le capot, qu'on découvre un Renault que nous, grand public, on ne connaît pas forcément.
Je pense que c'est vrai. Je pense que Carlos Ghosn s'est éloigné de l'entreprise. Son rôle de directeur général, de président directeur général, il le jouait de moins en moins. En s'éloignant de plus en plus des dossiers importants, ça a laissé un vide en dessous de lui, dans lequel Thierry Bolloré, Madame Seppéry se sont engagés, ont embauché les gens qui les arrangeaient bien, on poussait à l'extérieur les gens qui pouvaient les gêner, et ça, c'est jamais bon pour une entreprise automobile.
C'était une lutte de pouvoir, très forte au sein de Renault.
Ça a été une prise de pouvoir en dessous de Carlos Ghosn, qui s'est complètement mise en place après son départ. Mmh. Et je pense que Jean-Dominique Senard a bien compris ça, et en mettant à la porte Madame Seppéry puis Monsieur Bolloré, il a donné un coup d'arrêt à cette clique, je peux presque dire, qui s'était mise en place chez Renault. Mais du coup, il y a beaucoup de problèmes qui sont accumulés et qu'il va falloir traiter. Renault n'est pas dans une situation facile. Le conseil d'administration va voir les comptes de Renault pour le 3e trimestre. Ils ne sont pas publics, donc on ne saura pas le détail, mais je pense qu'ils ne sont pas très bons et qu'ils vont pouvoir comprendre à quel point il y a besoin de faire un travail de renouveau, de rétablissement d'un point de vue managérial, mais aussi d'un point de vue tout simplement opérationnel. Et évidemment, derrière tout ça, il s'agit de retrouver la confiance de Nissan et donc des relations saines avec Nissan qui permettent de faire des économies.
Mais qu'appelle-t-on une relation saine? Parce qu'il y a plusieurs scénarios sur la table. Hein. Je veux dire, c'est Nissan a son indépendance, il y a une fusion Nissan qui est sans doute un peu le point de départ de l'affaire Ghosn. Une fusion Nissan-Renault, au contraire des collaborations un peu plus poussées, si c'est possible, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de collaborations, de plateformes techniques, etc. qui sont... Quel est votre scénario idéal, Patrick Pellata?
Je pense que la fusion, peut-être un jour, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, il faut retrouver la dynamique pour créer des synergies. Ça veut dire quoi, créer des synergies? Ça veut dire qu'il y en a un qui développe quelque chose et l'autre peut le prendre. Un qui développe, l'autre qui développe une chose, etc. Donc on divise des coûts, pas tout à fait par deux, mais presque par deux. On achète des pièces en commun, ce qui permet d'avoir des volumes plus importants, de les payer moins cher, etc. etc. C'est ça la première dynamique de l'alliance. Ça a très bien marché pendant des années. Ça s'était dégradé petit à petit sous Carlos Ghosn, énormément depuis que Monsieur Bolloré avait pris la direction des opérations, parce qu'il n'était pas du tout légitime vis-à-vis des Japonais.
Toute dernière question, Patrick Pellata, est-ce que la dernière fois que vous étiez venu là, c'était à propos justement du rapprochement éventuel avec Fiat Chrysler, vous étiez très 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 opposé. Est-ce que vous restez très opposé à ce rapprochement entre Renault et Fiat?
Oui, tout à fait. L'essentiel pour Renault, c'est de reconstruire une relation saine, productive, efficace avec Nissan. Et se disperser en partant avec FCA, qui par ailleurs est une entreprise qui a beaucoup de problèmes, c'était probablement pas la meilleure chose.
Mais vous savez, c'est comme dans la vie, il faut mieux faire envie que pitié, qu'à la limite dire que on va aller se marier avec quelqu'un d'autre, on va sortir avec quelqu'un d'autre, ça peut ramener à des bons sentiments, des meilleurs sentiments, l'autre. Voilà, il faut s'occuper de son couple, c'est comme toujours dans la vie. Merci beaucoup Patrick Pellata d'avoir été avec nous, donc l'ancien directeur général de Renault, et puis on verra en tous les cas si vous avez raison en disant vous plaidez pour l'interne. Dans un instant, c'est Philippe Louis-Dreyfus, il est président du conseil de surveillance de Louis-Dreyfus Armateur. On va parler de la vitesse des navires, est-ce que c'est une bonne mesure environnementale, et puis on va parler des attaques évidemment dans le Golfe avec l'impact que ça peut avoir. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, Philippe Louis-Dreyfus, président du conseil de surveillance de Louis-Dreyfus Armateur. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être là. Je sais que vous voyagez beaucoup. Armateur, on en parle beaucoup depuis notamment le G7, parce qu'on essaie de voir comment on peut réduire la facture énergétique et la facture environnementale. Et la solution qui émerge, et vous êtes partie de cette solution, bien sûr. Armateur, vous avez combien de bateaux chez Louis-Dreyfus?
Notre groupe, une soixantaine de bateaux de types très différents.
Oui.
Dont une petite moitié sous pavillon français.
D'accord. Et par rapport à CMA CGM, vous êtes...
CMA CGM est de très loin le plus gros armateur français dans le domaine du conteneur. C'est le troisième ou quatrième armateur mondial. Nous sommes très diversifiés, ce qui fait que ça ne nous fait pas de nous un des premiers... Les armateurs mondiaux dans aucun secteur, mais justement on a pris le parti d'une grande diversification, les navires de transport, les navires industriels, câbliers, sismiques, logistiques pour l'éolien, et aussi la logistique dans les pays d'Asie où on crée des ports dans les endroits où il y a besoin de ports et pour exporter ou importer les matières premières.
Avant de voir si effectivement le fait de réduire la vitesse de 2 nœuds, de 3 nœuds, quel impact ça peut avoir, juste le transport maritime, c'est l'occasion de faire un focus, ça pèse combien bien à peu près, le transport maritime dans le commerce mondial?
Le transport maritime est absolument nécessaire au commerce mondial. Un chiffre très simple, le transport maritime, c'est 92 à 93%, les experts s'interrogent exactement au centime près, du commerce mondial. Toutes les marchandises transportées par le monde à 95% passent par la mer, soit à l'état de matière première, soit à l'état de produit fini. Donc c'est absolument énorme, et c'est à peu près, grosso modo, une cinquantaine de mille navires de taille différente, mais au-dessus d'une taille minimale. Donc c'est quand même quelque chose qui pèse très lourd.
Essentiel.
Pardon ?
C'est essentiel.
Ah ben c'est absolument essentiel.
92-95% je pense pas que
c'est essentiel aussi comme indication de l'état du commerce mondial et de la conjoncture.
Est-ce que je sais pas si vous avez vu, donc il y a une attaque vendredi, il y a déjà eu une attaque avant évidemment. Est-ce que pour vous, ça vous inquiète ce qui se passe en l'occurrence dans le golfe Persique ?
C'est bien sûr extrêmement inquiétant pour nous tous ce qui se passe dans le Golfe, comme ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et dans cette région du monde, parce qu'il n'y a aucune stabilité. Il y a eu pendant très longtemps, alors que les régimes n'étaient pas toujours eux-mêmes très stables, une grande stabilité politique, militaire, qui est en train de se terminer aujourd'hui avec des risques réels. Mais c'est très volontaire de la part de certains pays qui veulent contrôler cette zone absolument essentielle pour certains trafics, et en particulier le trafic pétrolier. C'est d'ailleurs assez efficace, puisque il y a de fortes chances que ça fasse bouger politiquement cette région du Golfe. Donc, je ne sais pas encore dans quelle direction, mais ça inquiète tout le monde, à juste titre.
Ouais, à juste titre. Et vous, est-ce que vous en mesurez déjà l'impact ou pas encore ?
Ben, l'impact, il se mesure pour les gens qui sont au pétrole. Les frets pétroliers ont beaucoup monté ces derniers temps du fait de l'incertitude. L'incertitude en matière économique peut avoir deux effets, une baisse des prix, une hausse des prix. En l'occurrence, comme c'est politico-militaire et économique, c'est une hausse des prix des pétroliers.
Si vous posez la question, Philippe Poudrefus, c'est que vous êtes en plus président de la Task Force Économie Maritime, justement au sein du MEDEF international. Hein, donc c'est vous qui regardez, qui travailler sur ces questions.
Oui, je préside la Task Force Économie Maritime du MEDEF, mais qui regroupe MEDEF International, les conseillers du commerce extérieur, les CCE, et le cluster maritime français, qui est une très belle réussite, qui regroupe 350 entreprises du domaine maritime, mais qui ne sont pas toutes des armateurs, loin de là, toutes les entreprises. Voilà.
Juste encore un mot, il y a un risque de pollution, pour l'instant il n'y en a pas, donc à Sanker, ce bateau qui s'était échoué juste à côté des Bouches de Bonifacio, il n'aurait pas dû être là. On ne sait pas exactement encore ce qui s'est passé. Peut-être le pilote s'est endormi ou pas. Donc il suscite une grande colère, chez les habitants de Bonifacio, en disant on devrait avoir des règles beaucoup plus strictes. Une réaction ?
Je ne connais pas le dossier. Je les suis. Je pense. Personnellement,
il n'a pas répondu aux appels
d'information,
pendant 50 minutes.
Il n'y aura pas de pollution majeure pour deux raisons. Le navire me paraît pas, il m'apparaît juste accroché par son avant, à voir les images télévisions. Deuxièmement, c'est un petit navire qui transporte pas des quantités énormes de combustible, alors que des très gros bateaux transportent des dizaines de milliers de tonnes de combustible. Et quand il y a un problème avec ces très gros bateaux, là il y a un vrai risque de pollution. Je ne crois pas qu'il soit important, pour les deux raisons que j'ai données, petit navire, petite soutage, et aussi un problème qui n'a pas l'air, qui n'est pas, semble-t-il, désastreux, qui peut faire peur. Mais les gens ont souvent très très peur avant.
Surtout dans des réserves naturelles aussi belles.
Oui. Bien sûr, mais je crois qu'il y a aussi...
Il est plus protégé, je crois.
Il semblerait qu'il y ait là une faute humaine et des fautes. Oui. Je n'en suis pas certain.
C'est ce qu'on dit qu'il se
semblerait. Et à ce moment-là, on peut rien faire contre les fautes humaines dans n'importe quel métier.
Alors, de question à question principale, d'abord, est-ce que vraiment de réduire la vitesse des navires, comme s'est engagé du reste la CMA-CGM, vous aussi vous êtes engagé de 2 nœuds, hein, ce serait de passer, pour l'instant c'est 12 à 13 nœuds, l'idée ce serait de réduire de 15% la vitesse.
Je ne me souviens pas que CMA-CGM soit engagé spécifiquement dans cette mesure. Tous les armateurs français sont en faveur de cette mesure, dont j'ai été, je dois le dire, à l'origine.
Oui.
Je me bats pour cette mesure depuis trois ans.
Vous étiez un des premiers, absolument,
en tant que président des armateurs européens, et puis après du premier groupe mondial d'armateurs qui est le BIMCO. J'ai eu cette idée, parce qu'elle est, c'est une façon simple, rapide, efficace immédiatement, et pas coûteuse du tout, peu coûteuse, de réduire, d'avoir un impact extrêmement positif et immédiat sur les pollutions venant des navires. Dans la proposition française, je reviens sur la CMA-CGM, nous avons exclu les porte-conteneurs qui ont des raisons peut-être de moins réduire leur vitesse que les autres, d'une part parce qu'ils l'ont déjà fait considérablement, et d'autre part parce que certaines des marchandises qu'ils transportent ont besoin d'être transportées rapidement.
C'est pour ça que vous dites que ce serait des vraquiers. Vous voyez, j'ai retenu l'expression.
En me tirant une balle dans le pied, parce que nous sommes transporteurs de marchandises sèches, de marchandises pour des rues sèches, on donne cet exemple. Le transport de marchandises par les vraquiers, c'est à peu près 65% de la flotte mondiale, donc c'est important. Je donne l'exemple en le proposant pour les vraquiers, parce que ça réduit considérablement, quand on réduit la vitesse de 2 nœuds pour un gros bateau, on réduit la consommation de ce gros navire, les capesize de notre métier, de 50%. Donc c'est des chiffres extrêmement
parlants.
Ah oui,
c'est énorme, parce que moi j'avais 15 à 20%. Énorme. Vous voyez, j'avais une interview de vous, vous nous dites que c'est même
parce
jusqu'à 50%.
Un nœud. Maintenant, on a fait des études, c'est près de 50%, véritablement. Ouais, donc c'est un impact facile, immédiat. J'ai proposé cette mesure il y a plusieurs années, j'ai pas eu beaucoup de succès. Je la proposais à l'époque parce que je considérais que c'était une bonne façon de montrer que le maritime, c'était sans doute le mode de transport le plus exemplaire. Aujourd'hui, on commence à être un peu sur la cible du grand public et de façon pas complètement justifiée du tout. On le fait de façon défensive, pour montrer que les armateurs réagissent. J'ai eu du mal à faire bouger la communauté. C'est en train de se faire.
Vous avez le sentiment que c'est en train de se faire.
Oui. Je dois dire beaucoup au gouvernement français, à notre ministre des Transports, Mme Borne, et surtout au président de la République, Emmanuel Macron, que j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir convaincre que c'était une bonne mesure, puisqu'il l'a reprise au G7. Et c'est une bonne mesure, parce qu'elle est pleine de bon sens. Vous réduisez la vitesse de vos voitures sur l'autoroute, vous allez réduire la consommation, selon les lois physiques, la consommation d'énergie va être réduite du cube de la baisse de vitesse.
Ouais, ça, c'est une mesure, évidemment, on a l'impression que c'est pas facile à faire. C'est pas facile à prendre, en tous les cas.
C'est très facile à faire.
Comme ça.
Par contre, c'est une mesure très compliquée. C'est une très bonne question parce que c'est une mesure qui doit être prise au niveau mondial. Si c'est simplement les armateurs français ou les armateurs européens qui la prennent, ça ne servira à rien. Ça doit être absolument une mesure mondiale prise au niveau de l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation Maritime Mondiale, l'OMI. Et c'est pour ça que la position de la France en la matière,
des
armateurs français, mais surtout du gouvernement français, est essentielle. Et c'est vraiment une très bonne chose. J'en suis très fier.
Encore une question, Philippe Dreyfus. Est-ce que le fait, par exemple, de ne plus prendre la route du Nord, où on sait qu'il y a un vrai problème de fonte des glaces, est-ce que c'est une bonne idée? Vous voyez, c'est peut-être de faire attention où vont les navires, où sont les routes maritimes.
C'est certainement une bonne idée, mais de là à son exécution, il va se passer beaucoup de fontes et beaucoup de reglaciation.
Ouais,
parce
ouais,
que
vous
justement,
y croyez pas beaucoup.
Ces routes du Nord ne seront pas ouvertes en permanence, ça c'est sûr, mais même les époques où elles risquent d'être ouvertes, elles risquent d'être difficiles d'accès. Il y a en plus des tas de raisons politiques, avec des pays qui vont se disputer la gestion de ces routes, donc on n'est pas au bout du problème aujourd'hui. C'est une bonne idée, mais elle n'est pas facile à mettre en place.
Encore moins facile du fait que la réduction de la vitesse, en l'occurrence.
Ça permettrait aussi de passer par ailleurs et de réduire beaucoup les nuisances à l'environnement. C'est pour ça que je me bats depuis des années à ce sujet.
Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu porter justement votre plaidoyer. Philippe Louis Dreyfus, donc le président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus Armateur, était notre invité. Dans un instant, on va parler du prix Nobel d'économie, décerné notamment à Esther Duflo, une Française. On en parlera avec Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France. Et avec lui, bien sûr, on parlera du Brexit, parce qu'il est le monsieur Brexit pour la France. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Le RH se poursuit avec notre invité Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Monsieur Brexit, évidemment, on va parler du Brexit, puis on parlera du prix Nobel d'économie, parce que je crois que vous la connaissiez, mais pour l'instant, rappel des titres, Thomas, ça se passe.
Le prix Nobel, justement, qui va donc à la Française Esther Duflo, qui va en fait à un trio, à Esther Duflo, à l'Indien Abhijit Banerjee et à l'Américain Michael Kremer. Ils ont tous les trois été récompensés donc à Stockholm d'un Nobel pour leur approche de la lutte contre la pauvreté. Je cite le comité Nobel, les recherches menées par les lauréats de cette année ont considérablement amélioré notre capacité à lutter contre la pauvreté dans le monde En 2 décennies seulement, leur nouvelle approche basée sur l'expérience a transformé l'économie du développement. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron reçoit en ce moment Ursula von der Leyen, puis en tout début d'après-midi Donald Tusk à l'Elysée. Au menu des discussions, la composition, bien sûr, de la future Commission européenne, hein, après le rejet la semaine dernière de la candidature de Sylvie Goulard. Bruno Le Maire a déclaré dans la matinée qu'il n'était pas candidat à la Commission européenne. Et puis l'autre gros sujet de discussion également à l'Elysée aujourd'hui, bien sûr, c'est le Brexit. On en parle avec votre invité dans un instant, Edwige. À 3 jours d'un Conseil européen qui peut s'avérer décisif dans ce dossier, mais accord ou pas accord le 31 octobre, Londres semble bel et bien préparer l'avenir, puisque le ministre des Finances britannique a déclaré dans la matinée qu'il présentera le 6 novembre le premier budget britannique après la sortie de l'Union européenne. Et puis la Chine continue de payer au prix fort les tensions commerciales avec les États-Unis. Les exportations ont reculé en septembre de 3,2%, les importations de 8,5%. Résultat, l'excédent commercial avec les Américains s'est réduit de 1 milliard de dollars en un mois. Et les Américains ne sont plus maintenant que le 3e partenaire commercial des Chinois. BFM Business, il est midi 33. On retourne sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 qui recule, qui abandonne quasiment 1% à la mi-journée sur fond de tension justement entre les États-Unis et la Chine à 5 612 points. L'euro-dollar, quant à lui, est stable. 1 euro s'échange pour 1,1039 $.
Merci. Et Thomas, à suivre le Brexit, le prix Nobel d'économie. Et puis quand même, ces bisbilles au sein de la Banque Centrale Européenne. Christian Noyer est notre invité.
Tous les vendredis, la semaine business s'achève avec Inside Weekend. 2 heures pour revenir sur les événements économiques de la semaine et se projeter sur la semaine suivante. Interviews de patrons et d'experts, chroniques, décryptage et débats pour prendre du recul sur l'information et en comprendre tous les enjeux. Inside Weekend, présenté par Pauline Tadevin, tous les vendredis, 18h-20h et 22h minuit sur BFM Business.
Bonjour Monsieur Wellman, vous êtes directeur d'une PME et amené à beaucoup voyager. Comment travaillez-vous en déplacement ?
Je ne me sépare jamais de mon PC portable HP EliteBook X360, un outil professionnel indispensable. J'enchaîne les rendez-vous, les réunions, sans jamais me poser de questions sur la batterie, parce qu'il a 17 heures d'autonomie et une recharge ultra rapide, 50% en seulement 30 minutes. C'est un vrai plus d'avoir cette liberté.
Et quels sont ses autres atouts ?
Sa simplicité et sa polyvalence avec son format convertible. Avec Windows 10 Pro et son écran tactile, je peux facilement annoter des documents au doigt ou à l'aide du stylet. Et aussi, grâce à mon HP EliteBook X360, je participe à des conférences audio ou vidéo, au bureau ou à distance. Les interlocuteurs n'entendent que l'essentiel avec ces micros équipés de filtres à réduction de bruit.
Plus d'infos sur hp.com/fr/business.
Vous avez tout réussi dans la vie. Votre vie professionnelle et personnelle. Et pourtant, vous n'êtes pas encore conseillé par Dauphine Patrimoine. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Si votre quotidien se discute à la banque, votre avenir se prépare chez Dauphine Patrimoine. Planifier, investir, protéger, c'est notre métier. Dauphine Patrimoine s'engage à vos côtés à chaque étape de votre vie. Rencontrons-nous. Marco est heureux. Il a enfin trouvé le logement Cogedim de ses rêves. Proche des transports et avec une école juste à côté. Bref, il est sur un petit nuage.
Attendez, c'est pas tout.
Pardon ?
Bah oui, il y a aussi le confort du neuf, le respect de l'environnement, l'aide au financement, les avantages.
Oui, c'est vrai. Chez Cogedim, on vous propose des logements qui cochent toutes les cases. Trouvez l'appartement de vos rêves avant le 28 octobre et bénéficiez jusqu'à 30 000 euros offerts. Et là, ça allait ?
Nickel !
Cogedim, vous verrez la différence. Conditions et détails de l'offre sur cogedim.com.
Les Sophos Labs bloquent plus de 400 000 nouvelles cybermenaces chaque jour. Êtes-vous sûr d'être bien protégé ? Grâce à l'intelligence artificielle, Sophos offre une cybersécurité efficace contre toutes les cyberattaques. Sophos.
AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale du chef d'entreprise et de ses salariés, vous donne rendez-vous à l'événement Impact PME le 5 novembre prochain à Paris. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, partenaire d'Impact PME sur BFM Business.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France. Merci d'être avec nous, parce que vous êtes justement toujours en train... Vous êtes le monsieur Brexit, un peu, du gouvernement, on peut dire. Vous êtes toujours entre Londres et Paris. On va revenir sur ces négociations, bon, vraiment, on peut dire, la dernière chance avec ce sommet européen. Et ben, Michel Barnier qui ressemble à ses homologues. Là, il y a le discours de la reine, on va voir ce qui va se passer. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de tension. Christian Noyer, d'abord, peut-être un mot sur ce prix Nobel d'économie, en l'occurrence, Cécile Esther Duflo, pardon, j'étais sûre directeur d'affaires. Esther Duflo, grande économiste spécialiste de la pauvreté. Est-ce que ça veut dire quelque chose, à votre avis, justement, par rapport à l'ère du temps?
Oui, oui, bien sûr. Mais l'année dernière, c'était, en fait, le prix Nobel avait été à des chercheurs sur l'économie de l'environnement. Cette année, l'économie de la pauvreté. Bon, c'est normal, le comité Nobel essaye de renouveler ses thèmes et de chercher ce qui est particulièrement saillant dans l'actualité et en même temps qui correspond à des recherches de fond. Voir que ces trois économistes ont fait vraiment faire des progrès à l'analyse économique de la lutte contre la pauvreté. C'est pas de la littérature, c'est pas seulement des bons sentiments. C'est vraiment comment est-ce que concrètement des actions concrètes et alors peuvent changer les choses et avec beaucoup d'expérimentation, de démonstration. C'est vraiment de la science expérimentale et ensuite on en tire des conclusions. Est-ce que par exemple s'occuper de la santé ou de l'habillement des enfants permet d'améliorer les résultats scolaires, donc d'accélérer en réalité le développement et l'adaptation à la production. Enfin, ce sont des choses extrêmement utiles qu'ils ont développées tous les trois.
Est-ce que ça veut dire quand même que c'est la reconnaissance entre guillemets du fait que la mondialisation ça a quand même accentué, peut-être réduit les inégalités, mais aussi qu'aujourd'hui on se pose la question de cette fracture sociale.
Oui, alors comme il s'agit de l'économie du développement et des pays en développement, je crois que en fait la mondialisation c'est ce qui leur permet de sortir de la pauvreté. Hein. Donc c'est compliqué à vivre pour nous pays industrialisés, pays développés. Et ça crée des tas de problèmes qu'il faut régler. Là, ils se sont intéressés à la façon d'inclure dans le développement une plus grande partie des populations, des pays en développement, des pays émergents, notamment il y a beaucoup d'expérimentations en Inde. Donc c'est ce que la globalisation permet de faire, mais la globalisation ça ne suffit pas. Il faut ensuite aller faire des actions qui sont, comme on dit, microéconomiques, qui s'intéressent à des petites entités, des villages, des petites entreprises, etc. Et là, ils ont fait énormément progresser la connaissance et la réflexion.
Christian Noyer, on parle du Brexit. On veut dire, quelle est l'ambiance là? Est-ce que vous avez des retours sur les négociations qui sont en train d'être menées en ce moment même?
Non, pas du tout.
Quel est le...
Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui avait bloqué, c'était en fait la question de l'Irlande. Et c'est toujours ça qui est le point crucial. Les Anglais n'ont pas réfléchi à l'époque où ils ont décidé, enfin où le référendum a été voté et la décision de principe prise de sortir de l'Union Européenne, que ça allait avoir des conséquences dramatiques en Irlande si on ne faisait rien. Mm-hmm. Puisque en fait, un des fondements du retour de la paix en Irlande, ça a été le marché unique, le marché commun européen. Et donc la libre circulation des personnes. Donc aujourd'hui, on est toujours bloqué par ça. Alors, le gouvernement anglais a proposé quelque chose qui ne répond qu'à une petite partie du problème. L'Union européenne avait proposé au départ qu'on garde l'Irlande du Nord dans l'Europe économique, en quelque sorte, dans l'Union douanière, dans le marché unique. Est-ce que c'est à ça qu'on
va aboutir? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un accord ou pas? Vous, Christian Noyer, voilà, on est dans le rush. Est-ce que vous vous dites, je pense qu'on trouvera finalement un accord?
Moi, je pense que c'est très difficile. C'est pas complètement impossible, c'est très difficile. Il faut que les Britanniques acceptent de reconnaître que il doit y avoir une frontière économique entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Ouais. Et ça, c'est
déjà avec l'Écosse qui veut partir, donc oui. C'est sûr que ça va venir compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Dominique Strauss-Kahn qui était à la conférence de Marrakech organisée par Thierry Monbrial, hein, qu'on connaît bien ici, le patron de l'IFRI. Il se considère comme un Brexiteur. Il dit que le départ des Britanniques serait une bonne chose pour eux, mais aussi pour l'Union européenne. Une bonne partie de la difficulté de la construction européenne, je cite, depuis 40 ans, est liée à la présence de nos amis britanniques qui n'ont jamais voulu jouer le jeu. Bah, finalement, il a plutôt raison, non?
Le Royaume-Uni, en fait, était assez content du marché commun ou de l'Union européenne telle qu'elle fonctionnait, mais a toujours été réticent à l'approfondissement, aller vers plus. Au fond, il n'a jamais adhéré à l'idée qu'on allait progressivement, peut-être à très long terme, et qu'on allait vers une sorte de confédération, et que à chaque fois qu'on avait réalisé une étape, on se préoccupait de l'étape suivante. Et au fond, il n'aurait plus voulu que ça bouge. Mm-hmm. Et donc, c'est cette espèce de marche en avant avant, qui a été toujours poussé par la France, l'Allemagne, avec des différences suivant les époques, mais et les autres grands pays européens, auxquels des pays comme l'Espagne ou le Portugal, nouveaux venus, ont adhéré complètement, c'est quelque chose qui n'a jamais convaincu le Royaume-Uni. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours été... Ils ont souvent été, pas toujours, mais souvent été un frein sur certaines réalisations et que si on veut vraiment que l'Europe s'intègre plus et progresse plus et prenne davantage de choses en considération, y compris la protection économique de l'ensemble des citoyens européens, si on peut dire, eh bien, ce sera plus facile sans le Royaume-Uni, c'est exact.
Stéphane Boujenah, qui était le patron d'Euronext, qui était mon invité ce matin, il nous expliquait qu'en fait, c'était quand même une chance pour l'Europe, pour l'Union européenne, sans la Grande-Bretagne. Est-ce que vous partagez ça? Parce qu'après tout, vous êtes le monsieur Brexit, notamment dans la finance. Hein, vous allez...
Alors, dans la finance, pour ça que ce qui se discute en ce moment, c'est le degré d'intégration, enfin, c'est la question irlandaise et le degré d'intégration dans les échanges de marchandises. Qu'on aille vers une union douanière générale, comme ça avait été proposé par Theresa May, ou limitée dans le temps, ou limitée à l'Irlande du Nord. Ensuite, on aurait, en cas d'accord, 2 ans de période de transition pour négocier un accord de libre-échange qui couvrirait les échanges de marchandises, plus ou moins. Ce qui serait plus ou moins facile, libre, sans droit de douane, etc. Ensuite, du côté de la finance, ça ne changera rien. Pour moi, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, de toute façon... Il n'y a aucune solution, c'est pas dans les accords de libre-échange, c'est pas dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc on sera de toute façon dans une situation très différente d'avant. Et c'est vrai que comme la finance était depuis 20 ans beaucoup concentrée à Londres, que les pays du continent avaient énormément perdu, il va y avoir un certain retour d'activité financière, donc de création de richesses, etc.
Mais c'était votre job, Christian Noyer, mais je veux dire, on ne voit pas vraiment les retours. Il y a eu quoi, comme finalement Il y a une forme de déception, hein, quand même, il faut le reconnaître. On pensait que c'était
essentiellement parce que tant que les choses n'étaient pas claires, tant que les gens se disaient peut-être que le Brexit n'aura pas lieu, peut-être qu'au dernier moment ils vont renoncer, peut-être que les nouvelles élections vont amener une autre majorité, peut-être qu'ils vont faire un nouveau référendum. Donc les transferts ont été limités au minimum.
Donc, mais vous croyez vraiment que ça sera rien à plus le 1er novembre ?
Toutes les décisions juridiques ont été prises. Les transferts de capitaux ont eu lieu. Il y a des centaines de milliards qui sont passés. En termes de création d'emplois, ça a été limité parce qu'avant de transférer les équipes, on veut être sûr de la solution définitive.
Mais est-ce que vous pouvez nous annoncer qu'il y aura quelques grandes banques qui vont venir ici ?
Bien entendu, au fond, on peut dire
parce que pour l'instant, c'est plutôt HSBC qui est en train de vendre sa filiale française.
Oui, mais ça, c'est la banque de détail, c'est tout à fait différent. Mais dans la banque d'entreprise et de marché, toutes les grandes banques du monde vont avoir une implantation très forte. Alors, il y en a qui seront complètement à Paris, comme Bank of America. Il y en a d'autres, les autres grandes banques américaines seront probablement partiellement à Paris. En majorité pour leurs activités de marché, mais oui, on a toutes les et pas seulement les américaines, les britanniques et d'autres sont sur la même ligne, et donc on va voir des transferts importants se passer. Mais là encore, si on a 2 ans de période de transition, ça va s'étaler sur les 2 prochaines années, donc ça va pas être des trains entiers de personnes qui vont arriver un lundi matin, ça va s'étaler.
Qu'est-ce qui va se passer le 21 octobre, le 31 octobre? Il va se passer des choses. Est-ce que vous êtes gouverneur de la Banque de France, est-ce que vous redoutez ce qui peut se passer?
Sur la finance, il ne se passera rien de dramatique du tout, parce que toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance ont négocié avec la BCE, les régulateurs comme la CPR en France, une transition. De toute façon, les mouvements se feront, qui est accord ou pas accord, ça va se faire de façon étalée sur un certain nombre de mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, suivant les circonstances. Donc tout ça est assez bien préparé. les changements juridiques ont eu lieu, les nouveaux contrats avec les clients ont été signés, donc je pense qu'il y aura peut-être un jour ou deux de flottement, il n'y aura pas de problème. Le problème sont les marchandises.
Oui.
Le problème sont
oui.
les marchandises. Si vous avez des contrôles, si vous avez des files de camions de 20 ou 30 kilomètres des deux côtés, si vous avez des stocks qui viennent à manquer, si vous avez des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement qui impactent certaines usines, c'est là qu'on peut avoir des problèmes.
Alors, je voudrais encore deux autres sujets. D'abord, une déclaration, tiens, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, hier, c'est nos confrères d'RTL, qui déclarait que les États-Unis n'étaient plus nos alliés lorsqu'on gardait la guerre commerciale et que quelque part, ils voulaient la fin de l'Union européenne, la fin de l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le Premier ministre, l'ancien Premier ministre ?
Il y a apparemment, même si ça n'a pas été dit d'une façon aussi claire, mais apparemment un énorme changement dans la position américaine qui, au fond, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin des années 40, était en faveur de l'Europe, de la création de l'Union européenne, du renforcement, et préférait avoir un grand partenaire solide pour négocier au niveau mondial sur le plan commercial, faire pression conjointement sur les pays tiers, et ça c'est une position constante de tous les présidents, qu'ils soient démocrates ou républicains depuis des décennies.
Ouais, là,
on est passé sur une administration américaine qui préfère le bilatéral au multilatéral, et qui apparemment préférerait négocier avec chaque État européen qu'avec tout le monde ensemble. Alors, c'est pas de chance pour eux, on est organisé comme on est organisé, ils n'ont pas le choix, mais on sent bien que il y a plus du tout de cette adhérence à l'intérêt d'une Union européenne qui a été...
Non, mais est-ce que, là vous me faites un discours un peu de gouverneur. J'ai envie de dire, est-ce que ça va plus loin, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont envie, effectivement, d'affaiblir l'Europe? Est-ce qu'il y a une volonté de Donald Trump d'affaiblir l'Europe?
Il y a sans doute cela. C'est très compliqué de comprendre la politique du président Trump. On est sûr qu'il n'aime pas le multilatéral, il n'aime pas les ensembles, il aime bien négocier en bilatéral. Il pense que les États-Unis sont plus forts s'ils négocient en bilatéral, et donc tout ce qui peut affaiblir l'Europe est bon. Et si le Royaume-Uni s'en va, c'est excellent. Bref, ça, on voit bien qu'il y a une série de
déstabilisation quelque part européenne. Hein, on
Là,
peut le dire.
Clair. Okay.
Qu'est-ce qui se passe au sein de la Banque Centrale Européenne? Vous-même, vous aviez CGSCG pendant longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, du moins, en l'occurrence? Est-ce que Mario Draghi, il a voulu peut-être libérer Christine Lagarde d'une décision à prendre un peu difficile, donc c'est lui qui l'a prise? Est-ce que c'est une forme d'inconscience par rapport à la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi cette branca?
Bon, alors d'abord, il faut bien voir que, contrairement à ce qu'on dit souvent, dans les médias par
simplification,
les décisions ne sont jamais prises par un homme seul ou une femme seule, c'est toujours le résultat...
Le conseil des gouverneurs.
D'un conseil. Ouais. Et c'est pareil dans toutes les banques centrales.
Non, c'est bien, c'est juste...
C'est collectif, on est rarement d'accord tout de suite sur les mesures, il y a débat, on essaye de trouver le meilleur consensus possible, et c'est normal qu'il y ait des points de vue différents, et c'est ça qui fait la solidité en principe des décisions qui sont prises. Alors, à l'heure actuelle, c'est particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à un stade de niveau de taux d'intérêt extraordinairement bas. C'est partout vrai, mais c'est particulièrement vrai dans la zone euro. Et donc, on a même des taux négatifs, on a une courbe des taux qui est complètement plate. Et donc, techniquement, ce qu'on peut dire, et ça c'est scientifique, c'est pas un argument, c'est que l'effet marginal de ce qu'on peut faire en plus, vous voyez, ce que ça peut apporter de baisser encore les taux ou de les mettre encore plus négatifs, est quasiment nul.
Vous auriez voté pour ou contre vous ?
Ouais, je n'étais pas spécialement favorable à ces
mesures. D'accord, donc ça veut dire que vous auriez voté contre.
Mais je pense que l'effet positif est quasi nul, et qu'en revanche, les effets négatifs associés, parce qu'il y a toujours des effets secondaires, sont particulièrement ennuyeux sur le secteur.
Une question, parce que peut-être qu'on prendra...
Donc c'est pour ça que le débat était difficile, et que, voilà, ceci étant, ils ont abouti dans leur sagesse à une décision. décision, bon, comme le dit mon successeur, il faut passer à l'étape suivante.
Et vous avez une minute pour répondre, Christian Loyer. J'ai reçu le président de la Fédération bancaire européenne, en l'occurrence Jean-Pierre Mustier, qui est le patron d'UniCredit, qui a dit quand même, nous, une courroie de transmission, ils veulent les taux négatifs, hop, ça va être nos clients qui vont payer, et on va les taxer sur la dépôt. Idem avec Frédéric Oudéa, président de la Fédération bancaire française, évidemment. Et puis là, il y a le patron de la Deutsche Bank qui dit, en fait, la BCE est en train de ruiner le système financier.
Oui.
Décision de trop.
Ben, il faut.
Oui,
faut...
vous dites oui. D'accord. Ok.
L'effet est très clair. Pour que ce soit efficace, il faudrait que ce soit répercuté. Donc, il faudrait que le livret A soit à moins 0,50. Il faudrait que nos dépôts soient taxés. Ce serait peut-être efficace. Mais personne n'envisage ça. Évidemment, on ne va pas faire subir ça aux particuliers aux entreprises.
Je vais vous dire, Jean-Pierre Mussier, il a dit ici
donc,
même.
Oui.
Il allait taxer ça au début.
Mais il le fait pour les gros déposants. Ils le font pour les gros déposants. Pour les grandes entreprises, ça pose aucun problème de mettre des taux négatifs. Mais vous pouvez pas le faire pour les particuliers, parce que ce serait la révolte dans la rue. Et donc, en pratique, ça veut dire que ce sont les banques qui supportent. Donc, les banques supportent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes choses étant égales par ailleurs, elles ont moins de capital pour faire du crédit. Donc, est-ce qu'il vaut mieux que le crédit soit encore 0,10% moins cher, mais que les banques prennent moins de risques, fassent moins volontiers du crédit, soient plus regardantes sur... Donc, c'est là qu'on atteint la limite de ce que la politique monétaire peut faire. Mais comme l'a dit Mario Draghi très justement, le problème, c'est que tous les États ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et on sait bien qu'il y a des États qui ne font pas la politique budgétaire qu'ils devraient mener.
Et bien, notamment la France.
L'Allemagne aussi. L'Allemagne accumule des excédents qui, dans la période de faiblesse économique mondiale européenne qu'on connaît, ne sont pas une bonne chose.
Christian Loyer, je vous propose de prendre, il est en ligne avec nous, Daniel Cohen, qui est professeur d'économie à l'école d'économie de Paris, et qui surtout avec une assistante qui maintenant est prix Nobel d'économie, en l'occurrence Esther Duflo. Daniel Cohen, bonjour, merci d'être là. Est-ce que vous êtes surpris?
En fait, pas du tout, on s'y attendait. Peut-être pas exactement pour cette année, mais c'est évident que Esther et ses co-auteurs, Abhijit Banerjee et Michael Kremer, seraient récompensés tôt ou tard pour leurs travaux sur le développement. Mais c'est évidemment toujours une grande joie quand ça vient au moment dit aujourd'hui.
Le travail principal sur lequel a été décerné ce prix?
Écoutez, tous ces auteurs, mais Esther en particulier, ont beaucoup travaillé à repenser entièrement les politiques d'aide au développement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de controverses chez les économistes sur la question de savoir est-ce qu'il fallait aider les pays émergents ou est-ce qu'au contraire, il fallait simplement réduire, par exemple, les accès au marché des pays les plus riches pour laisser se faire une dynamique de croissance. Si on les aidait, on accusait qu'en réalité, on créait du clientélisme, on créait de la corruption. Et si on les aidait pas, on disait, vous n'êtes pas des pays qui ne disposent pas des ressources de base pour pouvoir se développer. Et là où Esther et ses co-auteurs ont tout changé, c'est qu'ils ont dit, il s'agit pas d'aider ou pas aider, il faut aider de la bonne manière. C'est-à-dire, il faut comprendre ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Et donc, ils ont développé une nouvelle méthodologie inspirée des essais cliniques qui sont réalisés en pharmacie pour mettre des protocoles en place qui permettent de savoir ce qui, dans les santé, dans les écoles, fonctionne et ne fonctionne pas. Et ils en ont tiré autant des résultats qu'une méthodologie qui a totalement bouleversé le champ de l'aide au développement et que la Banque mondiale utilise maintenant. Donc cette petite jeune femme là, venue de chez nous, ancienne élève de l'école normale supérieure, a tout simplement révolutionné le champ de l'aide au développement.
Juste une dernière question, Daniel Cohen, parce qu'en plus c'est vrai, vous êtes le prof d'économie à Normale Sup. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'elle a eu raison de partir aux États-Unis? Un peu la grande question aujourd'hui, vous le savez mieux que moi.
Oui, mais je pense qu'on a beaucoup de très grands chercheurs. Je pense à Thomas Piketty qui est resté chez nous et beaucoup d'autres qui reviennent en réalité, qui sont restés en France. En fait, ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, c'est que c'est devenu plus ou moins inessentiel. On peut y aller, on peut revenir, on peut étudier en France. Les barrières qui pouvait exister quand moi-même j'ai commencé mes études il y a plusieurs années entre les États-Unis d'un côté, la France de l'autre, se sont progressivement réduites. On a Philippe Aguillon aussi, qui était aux États-Unis, qui est revenu professeur au Collège de France. Il y a beaucoup plus de va-et-vient que par le passé. Et d'ailleurs, Esther viendra passer l'année prochaine chez nous, et peut-être plus longtemps aussi encore. Je crois que ça a beaucoup moins d'importance que par le passé de savoir où vous êtes.
Merci beaucoup. Mais en tous les cas, ça fait une femme et ça fait une Française. Merci beaucoup, Daniel Cohen, d'avoir été avec nous. Merci, Christian Noyer. aussi d'avoir été avec nous, gouverneur honoraire de la Banque de France. Donc pas trop inquiet pour ce qui va se passer. On a encore du temps, parce que de toute manière, il y a une période de transition. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h15 et dans l'orage 12h-13h. Bonne journée.